pour moi, c'était impossible de créer une société sans mettre, j'allais dire l'emphase, mais en fait sans mettre la priorité numéro une sur la responsabilité sociétale. L'entreprise de demain, elle intègre forcément ça, et pas simplement en élément, mais en priorité. Alors bien sûr qu'il y a la rentabilité financière, etc. Mais enfin ça, on le sait, je veux dire, on ne parle que de ça, donc on le sait. Mais par contre, je pense que notre responsabilité en tant que chef d'entreprise, elle est immense.
Chère auditrice, cher auditeur, bienvenue sur La Machine à Sens, votre podcast consacré aux entreprises à mission. Mon objectif est simple, que la notion de société à mission prenne forme pour vous, qu'elle nourrisse vos réflexions en direction d'une entreprise plus responsable et que vous repartiez avec des bonnes pratiques, des écueils à éviter et surtout une envie débordante. Je m'appelle Vivien Pertuzo et j'ai le plaisir de vous accompagner dans cette expérience. Aujourd'hui, je vous présente la toute première série thématique du podcast. Sur 4 épisodes, nous allons explorer l'univers viticole sous tous ses angles. Le vignoble, le no-tourisme, le négoce, le réemploi, le financement participatif, l'installation. À chaque fois, je reçois une société à mission qui cherche à améliorer son environnement et s'engage auprès de tout son écosystème. Aujourd'hui, j'accueille Pauline Versace, fondatrice de La Vie Bonne. Pauline a créé son entreprise à Bordeaux l'année dernière au croisement entre le vin, le tourisme et la culture. C'est ce trait d'union qu'elle cherche à créer que j'ai trouvé tellement intéressant à creuser. Vous verrez, on en parle beaucoup. Imaginez les beaux châteaux de Bordeaux, un verre à la main, alors moi j'irais vers un Margaux ou un Saint-Julien, deux appellations que j'affectionne particulièrement. On irait travailler son écriture, découvrir des œuvres d'art rarement exposées. Bah la vie bonne, en fait, c'est un peu tout ça à la fois. Avec Pauline, on a exploré ses univers et surtout comment elle cherche à les appréhender avec ses mots, ses valeurs et ses envies. Vous verrez, il y a une véritable authenticité éclatante dans le projet de Pauline. Elle a également décidé de fonder La Vie Bonne directement en société à mission. Alors on revient sur ce choix. Comment elle est arrivée à cette décision? Comment elle a structuré sa raison d'être et ses objectifs? À un moment, on a tout de même dû s'arrêter. Mais l'échange aurait pu durer encore bien longtemps tant il y a de nombreuses facettes à découvrir. D'ailleurs, je vous laisse écouter l'épisode et si vous le souhaitez, déguster un peu de vin. In vino veritas, comme dit le dicton. Allez, bonne écoute. Bonjour Pauline.
Bonjour Vivien.
Bien, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour intervenir sur le podcast dans le cadre de cette série spéciale dédiée aux entreprises à mission dans l'univers du vin. Alors on va le voir, ce qui est intéressant avec La Vie Bonne, c'est que vous vous situez au confluent de plusieurs secteurs d'activité. Mais avant cela, je vais faire la traditionnelle présentation de l'invité. Donc Pauline Versace, je dirais que vous êtes une œnosophe. Alors même pour ceux qui ne connaissent pas forcément ce terme, il va prendre rapidement tout son sens. Vous avez créé La Vie Bonne l'an dernier, qui vise à réunir la créativité, la culture et le vin. Et ça semble être l'aboutissement naturel de votre parcours. Alors dans ce parcours, on retrouve le nectar de raisin sous diverses formes, au sein du Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux, puis dans le développement de nos tourismes au sein de Datou France, avant de laisser voguer votre plume au sein du Figaro Vin, et enfin de faire partie de la belle aventure de la Cité du Vin à Bordeaux, que je recommande à tout le monde d'ailleurs. Vous avez également une inflexion pour la philosophie que vous avez étudiée et qui a nourri votre projet entrepreneurial, on y reviendra probablement. En parallèle de La Vie Bonne, vous êtes également coordinatrice du réseau Women in Wine Tourism. Est-ce que vous souhaitez ajouter, amender, corriger des choses?
Je crois que c'est déjà assez complet. Vous avez l'œil très vif, hein, parce qu'effectivement, je crois que les éléments constitutifs sont là. Ah ouais, tout à fait.
Peut-être pour commencer, on va peut-être parler d'un terme que j'ai déjà cité sur le no-tourisme. C'est vrai que, alors vous et moi, ça nous parle parce que voilà, le no-tourisme se développe beaucoup en France, mais finalement, ça reste encore quand même un sujet un peu de niche. Donc, est-ce que vous pourriez déjà définir ce que c'est que le no-tourisme pour les auditeurs qui ne connaissent pas?
Oui, bien sûr. Alors, le no-tourisme, c'est le fait d'aller voyager, d'aller visiter une destination, on va dire un lieu hein, en France ou ailleurs où se trouvent des vignes, des châteaux, des wineries. Voilà, quel que soit le terme qu'on utilise en fonction du pays, hein, c'est l'idée d'aller visiter des domaines qui produisent du vin. Mais évidemment, ça va bien au-delà de ça. Le no-tourisme, bah, y a toute l'expérience de l'art de vivre. Hein, Bordeaux en est un excellent exemple. exemple parce que quand on fait de l'œnotourisme, on va dans des châteaux, mais on découvre aussi un art de vivre, on dîne, on déjeune à la propriété. Donc il y a évidemment l'alliance mets et vins qui est omniprésente. On peut aussi dormir dans les châteaux, donc il y a des chambres d'hôtes qui sont magnifiques, il y a aussi des hôtels, mais il y a tout type d'hébergement. Hein, tout est, voilà, il y a aussi ce qu'on appelle l'hébergement insolite. Enfin, aujourd'hui, l'œnotourisme se développe beaucoup pour permettre aussi de... Voilà, de correspondre aux attentes des consommateurs. Et puis, c'est vrai qu'on aime bien aussi, enfin, l'œnotourisme, il y a aussi cette relation à la nature, hein. Donc, voilà, on peut imaginer dormir à la belle étoile, etc. Tout est à peu près possible. Dans ma vision de l'œnotourisme, il y a aussi, voilà, la découverte culturelle du lieu, parce que, en fait, le vin, c'est pas qu'un produit de consommation, hein. Je pense qu'aujourd'hui, on va dire de plus en plus, le vin est un produit culturel. C'est-à-dire que quand on visite un château, en tout cas, moi, ce que je propose à mes visiteurs, c'est pas que de boire le vin, de découvrir le vin, que de faire de la dégustation. C'est aussi de comprendre pourquoi le château que l'on visite est ce qu'il est aujourd'hui. Je veux dire, à Bordeaux, c'est une question qu'on me pose régulièrement. Pourquoi Bordeaux est Bordeaux? Comment fait-on pour avoir la notoriété de Bordeaux? Ben, Bordeaux, c'est 2000 ans d'histoire, en fait. Ça s'est construit voilà, sur toute cette profondeur. Ben, le no-tourisme, c'est ça aussi. C'est aller dans un lieu et comprendre... toutes les évolutions du lieu sur lequel on se trouve, hein, et je pense que ça participe au tourisme plus conscient, donc à un tourisme on va dire plus durable. C'est un terme qu'on connaît mieux aujourd'hui.
Et comment est-ce qu'on peut expliquer l'essor de l'œnotourisme de manière un peu plus générale? Parce que c'est vrai qu'en soi, avant, les châteaux étaient quand même assez fermés sur eux-mêmes, etc. Et on voit cette ouverture de plus en plus, hein. Alors, c'est vrai que Bordeaux est probablement la région où l'œnotourisme s'est le plus développé en France, en tout cas aujourd'hui. Ça commence à arriver dans d'autres régions, mais c'est vrai que Bordeaux est quand même un peu le fer de lance sur ce sujet-là. Comment on peut l'expliquer?
Alors, si on regarde un petit peu en arrière, je pense que il y a deux choses. Le no-tourisme a quand même toujours existé. C'est-à-dire que c'était pas organisé comme ça l'est aujourd'hui avec, voilà, des labels, avec des chartes de qualité de l'accueil, etc. On va dire que, voilà, il y a toujours eu quelqu'un, la propriété, qui a accueilli le visiteur pour faire découvrir. Alors, voilà, une fois de plus, c'était certainement beaucoup plus artisanal. Bien que certaines propriétés aient toujours été, portées sur l'accueil du visiteur, hein, qu'on appelait ça comme ça. L'accueil à la cave ou voilà. Donc pour moi, ça a toujours existé, plus dans certaines régions de France que d'autres aussi. C'est vrai que c'est des cultures de l'accueil. Je pense notamment à l'Alsace, qui est quand même pionnier, qui est une région pionnière avec sa route des vins, sa culture de l'hospitalité, sa culture de l'accueil dans les caves. Bordeaux, oui, bien sûr, on va dire, est une locomotive comme à bien d'autres aspects. Les châteaux ont toujours accueilli leurs clients, les châteaux ont toujours accueilli leur entourage professionnel. Alors, pas forcément le grand public. Je pense que c'est ça le gros changement. Voilà, puis le dernier point, c'est que le tourisme mondial s'est développé énormément. Et voilà, le no-tourisme fait souvent partie aussi d'un tourisme plus global, c'est-à-dire qu'on constate bien à Bordeaux que nos visiteurs dans les vignobles sont les mêmes qui passent l'été sur les plages, etc. Donc, ils vont passer une journée dans les vignobles. Ou voilà, vous voyez, on vient pas forcément passer deux semaines dans les vignobles. C'est vrai que c'est aussi une façon de découvrir la région dans laquelle on passe l'été, par exemple, ou passe le mois d'août.
Je comprends effectivement. Alors on va petit à petit faire un peu le trait d'union, hein, entre donc avec l'œnotourisme culturel et le fonctionnement de la vie bonne. D'où vous est venue cette idée de la vie bonne? Est-ce que vous pouvez nous expliquer, parce que c'est vrai que je l'ai dit un petit peu en introduction, vous êtes au confluent de différents secteurs, mais comment cette idée vous est venue?
Alors, effectivement, je trouve que croiser les mondes, on va dire de façon générale, est très intéressant. Alors, moi, c'est vrai que vous l'avez dit dans mon parcours, ça fait plus de 20 ans maintenant que je travaille dans le vin et dans le tourisme. Donc, j'ai vraiment les deux voies et justement se croisent et c'est ça que je trouve vraiment une fois de plus très riche. Donc, l'idée de créer cette société est venue assez naturellement, si vous voulez, quand au quotidien, quand on habite à Bordeaux. on ouvre les yeux et on voit en fait la terre qui nous porte, on regarde ce qu'il y a autour de nous. Et en fait, il y a des propriétés vraiment exceptionnelles. Je pense, pour avoir aussi visité d'autres pays, et notamment quand j'écrivais pour le Figaro Vin, voilà, Bordeaux est une région absolument magnifique avec des châteaux voilà, qui font la fierté de notre culture française, en fait, qui sont vraiment à la pointe de l'art de vivre à la française et aussi du patrimoine, de la culture, voilà, qui portent et qui transmettent cette culture parfois millénaire. Enfin, il y a des châteaux à Bordeaux, on vous explique que ça a été, que les fondations datent du 15e siècle, du 16e siècle. Enfin voilà, c'est quand même fascinant d'arriver dans des châteaux comme ça qui déjà à l'époque produisaient du vin. Mmh. On voit le château de Montesquieu, le château de Montaigne, ce sont des exemples quand même, enfin moi, qui me fascinent complètement. Donc il y a vraiment cette profondeur à Bordeaux. Donc déjà, rien qu'en ouvrant les yeux, moi je me suis dit, en fait, j'ai envie de transmettre ça, de continuer à transmettre ça. Après, effectivement, ça c'est sur le fond. Sur la forme, quelle société, quel statut juridique, pourquoi société à mission,
voilà, on reviendra
là-dessus, parce que c'est vrai que là, oui, il y a une réflexion on va dire, voilà, que j'ai souhaité faire aboutir.
Et si on regarde un petit peu plus spécifiquement, qu'est-ce que vous proposez au fait au sein de la Vie Bonne aujourd'hui ?
Alors en fait, moi je suis une agence de voyage, une agence réceptive, c'est-à-dire que je fais venir des voyageurs à Bordeaux pour proposer des voyages de no-tourisme ou des voyages culturels, en sachant que les lieux que je choisis avec soin sont des châteaux. Donc le lien avec le vin est évident. Voilà, j'ai plusieurs types d'offres. Hein. J'ai une offre, on va dire, très grand public, qui consiste en des séjours qui sont sur un format de 4 jours et 3 nuits, donc en général du jeudi au dimanche, qui sont des séjours en lien avec le vin et les arts. Donc j'ai des séjours sur la thématique de l'écriture, donc qui s'appelle Écriture et Grand Vin. Là, en 2024, j'en ai 4 ou 5 là, qui sont déjà planifié. Par exemple, j'ai un séjour avec Lélia Hassen, donc qui est journaliste et écrivaine, qui vient de publier son dernier roman, là, Panorama, chez Gallimard, et qui vient donc faire une retraite littéraire, un atelier d'écriture, si vous voulez, au château La Forêt-Peyraguey. Donc ça, c'est au mois d'avril. Donc là, par exemple, typiquement durant ce séjour, ce sont des petits groupes de 8 personnes maximum qui viennent, donc tous les jours, durant le séjour, deux ateliers d'écriture par jour. Et le séjour est agrémenté, bien sûr, toujours d'activités, on va dire, un peu sportives, type yoga ou promenade dans les vignes ou vélo. Et puis, bien sûr, après, toute la partie gastronomique, donc les dîners, les déjeuners au château, les accords mets et vins, les visites de la propriété. Voilà. J'ai un autre séjour au château Chasplin que j'aime beaucoup aussi, Écriture et Grand Vin, avec Jérôme Funston, qui est un auteur et scénariste de Polar. Donc là, on est sur une thématique Polar, et là également, on a donc des ateliers d'écriture autour de tout ce qui est dramaturgie, art du récit. Voilà, ça c'est les séjours Écriture et Grand Vin. J'ai aussi des voyages philosophiques programmés sur 2024, toujours en petits groupes de 8 personnes. Donc là, on est sur des groupes, ce qu'on appelle nous constitués, c'est-à-dire que chacun peut s'inscrire individuellement, on peut venir seul ou à deux, ou voilà. Et ce qui me semble intéressant dans ces séjours-là aussi, c'est qu'en général, on rencontre, on fait des belles rencontres, en fait.
On reviendra effectivement sur cette notion de rencontre qui me semble assez importante.
Qui est inscrite dans ma raison d'être, donc qui me paraît très, très importante. Donc les voyages philosophiques, c'est très simple. On passe, pareil, 4 jours avec un philosophe qui guide nos réflexions. J'ai choisi en 2024 le thème de l'océan. Donc ce sont des séjours qui se passent au Cap Ferré, dans un joli, très joli hôtel de charme, donc au bord de l'océan, évidemment. Donc j'en ai un au mois de mai avec une auteure qui s'appelle Christiane Rancé, et au mois d'octobre avec un philosophe qui s'appelle Roberto Cassetti. Voilà, tous les deux ont écrit des ouvrages donc soit littéraires, soit philosophiques sur l'océan. Donc l'idée est d'explorer toute la fascination qu'on peut porter à l'immensité, à la liberté, mais aussi parfois à la peur que procure cet élément immense. Voilà. Puis le troisième pilier, ce sont les voyages d'art que je propose. Donc j'ai des séjours pareils, donc avec un petit groupe constitué. Donc on est à Bordeaux et on passe une journée notamment dans les ateliers de la maison Pétrus, qui est une très belle maison d'artisanat d'art qui crée et produit des belles étoles. Donc c'est local, c'est fait à Bordeaux et il y a tout un travail artistique magnifique et made in France, évidemment. Voilà. Et puis l'idée de découvrir aussi les adresses confidentielles à Bordeaux, etc. Ça, c'est la partie, j'ai envie de dire, grand public. Je travaille aussi avec une foire d'art contemporain qui s'appelle Bat Plus à Bordeaux. Ouais. Voilà. Et qui souhaite proposer des séjours, voilà, qui est positionné sur l'art contemporain et l'art de vivre. Donc là, c'est très intéressant aussi d'associer l'art à l'art de vivre à la Bordelaise. Donc nous proposons ensemble des séjours touristiques autour de ce salon, en fait.
Ce qui est intéressant dans ce que vous présentez, c'est que finalement, la vie bonne est un peu au cœur d'un écosystème. Là, vous avez parlé de différents auteurs, de Bad Plus pour la foire d'art, les différents châteaux, les lieux avec lesquels vous travaillez. J'aimerais qu'on creuse un petit peu cet aspect-là. Est-ce que vous pourriez nous expliquer concrètement comment ça se passe pour vous de trouver ces partenaires, ce qui viennent à vous, comment vous les attirez à vous, comment vous allez les chercher, comment vous les convaincre, parce que enfin vous avez oublié de le dire, mais la vie bonne est très récent. Hein, c'est une toute jeune entreprise hein, de l'année dernière. Donc comment ça se crée ce type de partenariat-là avec des personnalités. On parle enfin de châteaux qui sont certains grands crus classés. Alors c'est vrai que vous les connaissez peut-être par vos activités précédentes, mais aussi des auteurs qui sont renommés, etc. Comment ça se passe? Alors peut-être, à la rigueur, on va prendre différents partenariats, ce sera peut-être le plus simple. Commençons par le Château Chasplin. Bon, en plus, ils sont société à mission, donc ce sera plus simple.
Alors, je crois que vous avez déjà identifié, Vivien, certains mots-clés qui sont rencontres humaines. Voilà, il y en a un autre qui, pour moi, est très, très important, c'est la curiosité. La curiosité est réciproque, c'est-à-dire que ce que j'ai constaté en allant voir, par exemple, le Château Chasplin, c'est que, voilà, si vous voulez, l'association vin et culture existe déjà. C'est absolument pas la vie bonne ni moi qui l'avons inventé. Hein. C'est quelque chose qui existe déjà et une fois de plus depuis des voilà presque parfois des millénaires dans certains châteaux. Mmh. C'est vraiment voilà non seulement je vous dis il y a cette dimension historique notamment au château Chasplin. Mais en plus il y a une poésie infinie dans le nom de ce château. Enfin c'est un partenaire fantastique parce que voilà ils comprennent tout à fait voilà le rayonnement que peut avoir la culture dans le monde du vin en fait depuis longtemps Château Chasplin invite des auteurs le Château Chasplin a un centre d'art dans le château qui est ouvert à l'année avec des expositions. Voilà, donc si vous voulez, c'est un château qui associe déjà depuis très longtemps le vin à la culture. Après, voilà, c'est vrai qu'en discutant avec eux, ils me disent mais nous, en fait, on est vignerons, on n'est pas agent de voyage, on n'est pas voilà, donc on peut pas tout faire. Et c'est là où l'association de nos compétences fonctionne parce que nous sommes sur en tout cas, nous nous comprenons, nous parlons un peu le même langage quand même, et nous sommes société à mission aussi. Ça, c'est pas rien. Je pense que dans la réalisation de mes partenariats, les valeurs sont essentielles. Je choisis mes partenaires avec grand soin. Je choisis de faire du petit groupe de la qualité. Je ne ferai jamais du volume. Tout ça doit trouver résonance dans mes partenariats. Voilà, donc souvent les partenaires que vous citez, j'ai été les voir en leur présentant le projet et il y a eu écho. Voilà.
D'accord.
Comment ça se fait? C'est vrai que la curiosité pour en revenir là est réciproque. Moi, j'admire ce qu'ils font. Ils me disent nous, on y croit dans votre projet, donc voilà, essayons. Et voilà, s'autoriser des choses, ne pas avoir peur de l'échec, essayer, explorer, être curieux, être ouvert. Avoir les yeux ouverts, ça c'est pour moi, voilà, c'est essentiel, c'est fondateur. Ouais.
Et si on prend un autre partenariat, parce que je crois que c'est un des plus récents que vous ayez annoncé avec Bad Plus, parce que là c'est sur une typologie de personnes qui vont venir aussi à la foire plus spécifiquement. Comment ça se passe? Parce que là, on peut dire, bon oui, évidemment, il y a l'art en commun, etc. Mais entre avoir l'art en commun et créer un partenariat pour que vous vous occupiez en fait un petit peu des personnalités VIP, si j'ai bien compris le partenariat, il y a quand même un petit chemin à faire entre les deux.
Oui, c'est vrai. Alors, Bad, ce qui moi m'a attiré vers eux, c'est qu'ils ont depuis leur création. Donc là, ce sera la troisième année. Donc Bad, hein, c'est un salon, c'est une foire d'art contemporain qui a lieu à Bordeaux depuis. Là, ce sera la troisième année en 2024. Ça se passe du 29 mai au 2 juin. C'est un très beau salon qui aussi organise un dîner de levée de fonds. Voilà. Donc il y a plusieurs éléments qui me paraissent intéressants dans la dynamique culturelle et artistique pour la ville de Bordeaux déjà. Et ce qui est intéressant, c'est leur positionnement. Donc c'est art contemporain et art de vivre. Ils ont vraiment les deux volets. Et c'est-à-dire que
ils ont alors le salon qui se passe en Hangar 14, mais aussi un lien très fort avec, avec des propriétés viticoles bordelaises qui, elles-mêmes, proposent des expositions pendant le salon. Donc, si vous voulez, il y a un espèce de réseau hors les murs qui me paraît très intéressant. Un beau rayonnement. On n'est pas que sur un salon. Voilà, c'est ça. Et je trouve que c'est ça qui est très intéressant. C'est d'associer les acteurs engagés dans l'art sur le territoire. Les châteaux viticoles n'ont pas que. Hein. Ils ont d'autres partenariats aussi avec des artistes. Voilà, il n'y a pas que dans les châteaux. Mais on s'est vraiment retrouvés là-dessus. Et puis, il se trouve que, de fait, nous avons les mêmes partenaires puisque les châteaux viticoles qui ont des expositions et qui s'associent à Bad Plus, forcément sont intéressés pour co-créer des séjours culturels. Donc, on s'est vraiment retrouvés sur l'idée, en fait, sur l'association art et art de vivre.
Et si on prend une autre typologie de partenaires, là, plus au niveau des auteurs, alors on va prendre l'exemple de Lilia Hassen, j'aime beaucoup au demeurant cette autrice, et puis son dernier bouquin est vraiment très bien. Parce que là, on peut comprendre avec les autres les liens qu'il peut y avoir, parce que c'est des structures aussi commerciales, il peut y avoir un intérêt. Mais là, comment est-ce que vous arrivez à convaincre une autrice, en plus plutôt en vue, de venir faire un atelier d'écriture? C'est pas quelque chose de si fréquent que ça. En tout cas, ma perception peut-être est fausse, hein, mais j'ai pas l'impression que ça soit si fréquent d'avoir des auteurs qui prennent 3-4 jours comme ça pour faire des retraites avec un petit groupe de personnes sur l'écriture.
Absolument. C'est vrai que les auteurs, faire des ateliers d'écriture, je pense qu'il faut avoir envie et il faut aimer le faire quand on est auteur, parce que c'est pas leur métier non plus. C'est quelque chose de il faut avoir envie d'être dans le partage, etc. Moi, Lilia Hassen, je l'ai vue en atelier d'écriture, elle est fantastique. Elle est non seulement absolument brillante intellectuellement, c'est vraiment ça fait partie des rencontres dans la vie qui valent le coup. Et en plus elle partage, elle aime ça, il y a beaucoup de bienveillance et je vous dis elle a une érudition on est dans la diffusion de la culture pour moi. Et là, on est sur un deuxième pilier de ma raison d'être. Donc Lilia Hassen, en plus, elle est jeune, elle écrit. Vous avez vu un panorama, c'est créatif, c'est innovant. Donc pour moi, c'était effectivement un peu l'idéal. Après, moi, j'ai pas peur. En fait, je demande et puis au pire, on me dit non. Mais bon, après Lilia, je la connaissais, donc on avait discuté, on avait une confiance mutuelle, je pense. On peut parler à sa place. En tout cas, moi, j'avais complètement confiance, évidemment. Et donc on est en phase. Après, ça c'est pour Lilia, mais par exemple, je suis en contact aussi avec des éditeurs qui connaissent bien leurs auteurs. Je pense à la Maison Grasset notamment. Qui me recommande, qui me dit je te recommande cet auteur parce que elle aime ça ou il aime ça faire les ateliers d'écriture. Une fois de plus, c'est un peu un autre métier quand même. Donc c'est un réseau aussi, hein, c'est mon. Et puis après, il y a Jérôme Fanston, c'est un auteur que je connais de longue date, on va dire, en qui j'ai confiance aussi, et je sais qu'il sera parfait. Après, je sais qu'à Bordeaux, nous avons aussi de très belles plumes dans le monde du polar, donc je passe beaucoup de temps à aller les écouter, les auteurs aussi, à la machine à lire, chez Mola, aller aux rencontres littéraires, voir ce qu'ils me transmettent. Je me mets à la place aussi de mes visiteurs. Qu'est-ce qui va se passer pendant ces rencontres? Parce que ça va, vous savez, dans les ateliers d'écriture, les voyages philosophiques, il se passe des choses, hein, c'est très émotionnellement très fort, donc il faut que ça fonctionne. Donc jamais j'organiserai un séjour avec un auteur, un philosophe que je connais pas ou dont j'ai pas lu le livre. Et bien sûr aussi je lis leurs livres. Qu'est-ce qui se passe quand je lis leurs livres? Je vous donne un exemple avec l'auteur, l'écrivaine Christiane Rancé, qui a écrit un livre qui s'appelle Le Grand Large. Christiane Rancé, donc c'est elle qui anime l'un des voyages philosophiques. On tombe sur des livres qui nous transportent. Là, on prend contact avec l'auteur et ça fonctionne ou pas. Mais quand ça fonctionne, c'est rien que pour ça, l'entreprise vaut le coup d'être. La vie bonne vaut le coup d'être créée. Après, pour être honnête, j'ai aussi contacté des auteurs qui m'ont jamais répondu ou qui m'ont dit non, mais c'est pas grave. C'est ça aussi, la curiosité.
Il y a un, vous faites le lien assez rapidement avec la question suivante, qui est justement une perception que j'ai pu avoir en découvrant La Vie Bonne. C'est, j'ai l'impression que vous cherchez à recentrer les personnes sur eux-mêmes. C'est créer ces moments un peu hors du temps, se dire, alors il y a une expression que vous utilisez sur le site de La Vie Bonne, de tourisme paisible par exemple, et je trouve que c'est des éléments qui sont assez constitutifs de La Vie Bonne, en tout cas de ce que j'en comprends. J'aimerais bien qu'on creuse un petit peu ça et vous m'expliquiez ce que vous recherchez à créer comme expérience justement vis-à-vis des visiteurs qui passent par vos services.
C'est une question très intéressante. En fait, moi, je ne cherche pas à recentrer qui que ce soit. Enfin, chacun a le rapport qu'il peut, qu'il veut à sa vie. Enfin, voilà, moi, je suis pas coach. Hein, en revanche, je pense que je peux essayer de créer les conditions de rencontres qui fonctionnent. La rencontre, on en a déjà parlé, c'est le troisième pilier de ma raison d'être, les rencontres authentiques, les rencontres qui changent une vie, les rencontres qui font prendre des virages, les rencontres, ou alors les rencontres qui confirment qu'on est sur la bonne voie. Voilà, je pense que c'est ça aussi, les rencontres. Et en fait, ces séjours qui sont sur des périodes courtes, donc qui ne nécessitent pas de s'isoler pendant une semaine ou un mois de sa vie quotidienne, parce qu'on sait très bien que certaines personnes le peuvent, mais enfin ouais. Bon, en réalité, c'est compliqué. Donc des parenthèses, voilà, de 4 jours, 3 nuits, on va rencontrer des auteurs ou des philosophes ou des artistes qui ont de fait une autre vision du monde. C'est ça qui m'intéresse aussi, hein, de croiser les visions. On va rencontrer d'autres participants qui certainement ne viennent pas là par hasard non plus, donc on aura peut-être des choses intéressantes à se dire. On va faire preuve de beaucoup d'authenticité. On va baisser le masque, en fait, briser la posture. Ça m'intéresse beaucoup, ça. En tout cas, se donner une chance de le faire, être dans un lieu un peu, imaginez dans ce château, nos châteaux Chasplin, voilà, le château le soir, bah, il n'y a que nous, le parc qui nous appartient, on peut aller se promener, voilà, on est avec des gens bienveillants on est dans un lieu qui permet ça, un lieu qui permet ça. Voilà, donc moi, j'ai pas l'ambition de changer, de remettre qui que ce soit dans un chemin quel qu'il soit, mais en revanche, voilà, de créer des conditions propices à de belles rencontres.
C'est intéressant. Alors, on pourrait se dire, enfin, ces rencontres là, elles sont justement aussi pour créer des déclics chez les personnes, hein. Ça peut être aussi une des conséquences de passer par les séjours de La Vie Bonne. Mais c'est vrai que c'est intéressant la manière dont vous présentez la chose.
Ouais. Si je peux juste ajouter un point, j'ai remarqué dans ma vie que la créativité, pour compléter, en fait, voilà, votre propos, que la créativité, vraiment, l'expression créative, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit l'écriture, que ce soit la céramique, que ce soit voilà, la peinture, mais peu importe, la cuisine, que l'expression créative change la donne. Voilà. Et on est nombreux à ne pas avoir de trouver, ou ne pas avoir le temps, ou même de fuir ça parfois. Bon, j'ai remarqué, quand on met un petit peu de sel créatif dans sa vie, ça peut tout changer. Donc, c'est ça aussi qui m'intéresse.
Moi, généralement, c'est bon pour la santé aussi, de manière bête et méchante aussi. Hein. Alors, ce qui est intéressant dans le... Alors, je le disais au début, vous avez étudié la philosophie, vous étiez bénévole aussi pour un salon de philosophie.
Je le suis toujours.
Vous l'êtes toujours. Et le regard philosophique, je trouve, est omniprésent dans La Vie Bonne, déjà dans le titre de votre société. Est-ce que c'était important pour vous de faire ressortir cet aspect-là qui, j'ai l'impression, quand même, vous est cher personnellement?
Oui, alors effectivement, La Vie Bonne...
Peut-être rappeler, oui. Parce que c'est vrai que tout le monde n'a pas forcément la ref, comme on dit de nos jours.
Mais... Oui, La Vie Bonne, c'est vrai que c'est une façon de se positionner dans le monde où voilà, on explore en fait toutes les potentialités qui sont en nous. Et aussi, on a une... Voilà, ce qui est important aussi, c'est qu'on fait cela dans le respect de l'autre. Et que, voilà, on essaye voilà,
de bien vivre. Donc c'est très large et effectivement chacun aura aussi sa définition. Mais et puis ça date pas d'hier. Hein, c'est des concepts en philosophie qui datent de la Grèce antique. Hein, donc c'est ça qui est intéressant aussi. Enfin, la recherche de la vie bonne est un vaste sujet. Mais oui, en fait, la philosophie, effectivement, ça a été complètement fondateur dans mon parcours, même si moi, à l'origine, j'ai fait une formation hôtelière. Hein, donc, c'est vrai qu'on est quand même très loin de la philosophie. Mais j'ai aussi passé une licence de philo. Donc, en fait, ça a été complètement fondateur. Ça a été une révélation, je pense, de lire ces textes. Et donc, je n'ai jamais arrêté de lire la philosophie. Je fais maintenant, effectivement, je suis bénévole dans ce festival qui s'appelle Philosophia, qui est un magnifique festival. On est à sa 17e édition à Saint-Émilion. Et là, ce qui est fantastique dans ce festival aussi, c'est le lien entre la philosophie et le vin, puisque ça se passe dans la cité du vin par excellence, hein, Saint-Émilion. Donc oui, pour moi, la philosophie, on va dire que c'est transversal dans la vie. Voilà, j'ai choisi de pas... Enfin, je ne suis pas philosophe, hein, mais c'est vrai que les enseignements philosophiques... m'inspire énormément. Ce qui est fantastique en philosophie, c'est quand on s'empare des objets. Par exemple, quand voilà, je vous dis, en 2024, moi, j'ai choisi d'explorer le sujet l'objet océan dans les séjours, les voyages philosophiques que je propose. Et c'est fascinant quand on choisit un thème comme ça, un objet, et qu'on explore tout ce qui a été, toutes les recherches qui ont été faites en philosophie, mais aussi en littérature. Et puis ça peut être en histoire aussi. Enfin voilà, c'est parce qu'une fois de plus, ce qui est intéressant, c'est de croiser les domaines, de croiser les points de vue. Ce qui me passionne aussi en philosophie, c'est la structuration de la pensée en fait. Et ça, pour moi, ça a été très tôt une révélation. Comment on fait pour structurer sa pensée et donc pour développer une pensée critique. Et en fait, quand on a ça en tête dans la vie de tous les jours, je pense qu'on se protège de pas mal d'écueils. Oui. Et c'est quelque chose que j'essaie vraiment de transmettre à mes enfants aussi.
Il y a une phrase sur le site internet de La Vie Bonne qui, je trouve, encapsule très bien un petit peu les objectifs de votre entreprise. Je vais la lire. Il y a certains des thèmes qu'on a déjà abordés, mais pas tous. Donc là, je vous cite, hein. Je crois à la force des relations humaines, à l'optimisme, à la puissance des rencontres, au pouvoir des paysages, au tourisme paisible. Alors, il y a certains sujets qu'on a déjà abordés, mais peut-être qu'on pourrait revenir sur certains d'entre eux et d'autres qu'on n'a pas traités jusqu'à présent. L'importance des relations humaines. Déjà, parce qu'en soi, c'est vrai que on peut dire le no-tourisme ou le tourisme de manière générale, c'est une personne qui va à un endroit, qui découvre un paysage, un lieu, une ville, peu importe. Mais il n'y a pas forcément cette notion de relation qui se crée dans le tourisme. Pourquoi avoir voulu mettre l'accent? Vous en avez déjà un peu parlé, mais peut-être qu'on peut encore creuser davantage. Pourquoi avoir voulu mettre l'accent sur cette notion de relations humaines?
Alors, parce qu'il me semble que c'est peut-être une des choses les plus importantes dans la vie, en fait, la relation à l'autre, la façon dont on se comporte vis-à-vis de l'autre. On a une responsabilité immense vis-à-vis de l'autre. Alors là, je parle en dehors du monde touristique, on va dire. Voilà, en général, tout le monde n'est pas capable d'une relation humaine saine, mais c'est pas un jugement. Je pense que voilà, il y a de nombreux facteurs qui font que qui font qu'on arrive à développer des relations humaines saines et respectueuses ou pas. Voilà, donc pour moi, c'est un sujet qui est, voilà, on le sait, on fait tous partie d'une société, d'une entreprise. Souvent, on constate des choses souvent qui relèvent de l'absurde, enfin voilà, qui souvent tournent autour de la relation à l'autre. Donc ça, c'est on va dire, c'est d'un point de vue général. Dans le monde du tourisme, la rencontre est, pour moi, est un marqueur d'un tourisme plus respectueux. C'est-à-dire que quand dans un séjour on rencontre pas l'autre, que ce soit le local entre guillemets, mais moi par exemple je suis locale de Bordeaux, donc si voilà, un touriste ou un voyageur qui n'a aucun contact avec quelqu'un de Bordeaux, avec un vigneron du château qui visite, avec, enfin voilà, c'est un tourisme qui n'a pas de sens, et une fois de plus qui relève un peu de l'absurde, et en plus qui va à l'encontre de ce qui, à mon avis, doit être le tourisme de demain, parce que je pense que en tant que professionnel du tourisme, on a une responsabilité. Enfin, moi, j'ai créé, comme vous l'avez dit, la société de La Vie Bonne il y a tout juste un an. En créant une société de tourisme en 2023, on peut pas se dire je vais créer une société comme s'il se passait rien. En fait, je pense que c'est indispensable d'essayer, au moins, je dis pas qu'on y arrive, mais enfin d'essayer d'avoir une vision d'un tourisme du 21e siècle, en fait. Donc, et ça passe par la rencontre, par un lien authentique. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de rencontrer le viticulteur et pas le guide, etc. Enfin, c'est pas ça le sujet, parce que bon, le viticulteur, il a quand même du travail dans les vignes. Hein. Mais ça passe aussi par le temps qu'on prend à rencontrer les autres. Et ça, c'est les locaux, mais c'est aussi, comme je vous dis, dans les petits voyages, les personnes qui vous entourent, voilà, les personnes qui sont présentes autour de vous. En fait, être ouverte à ce qui est autour, prendre le temps aussi. C'est ça aussi la rencontre humaine, je pense.
Intéressant. Il y a un autre terme que vous n'avez pas encore mentionné, donc ça sera intéressant de le développer, c'est l'optimisme. Comment est-ce que vous cherchez à créer de l'optimisme par vos séjours?
L'optimisme est important et je pense par exemple aujourd'hui, en 2024, les vins de Bordeaux ont beaucoup de difficultés. Hein. Il suffit d'ouvrir le journal. C'est loin d'être facile. On n'est pas les seuls. Il y a beaucoup de régions viticoles en France qui sont en difficulté. Donc, il faut l'avoir en tête aussi. Je pense que l'optimisme passe aussi par offrir une possibilité à nos visiteurs, aux personnes qui ont envie de venir nous voir, voilà, d'être honnête, de dire voilà, la réalité c'est celle qu'elle est. Il y a beaucoup de propriétés en crise, etc. Mais il y a aussi des choses positives et intéressantes. Voilà, notre histoire, une fois de plus. Bordeaux, ça fait 2000 ans. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment on en est arrivé là? Je pense que s'intéresser à l'histoire des lieux que l'on visite. Est un élément du tourisme durable, mais aussi une façon de relativiser et de comprendre et de dépasser les situations de crise au jour le jour. Et ça vaut dans le tourisme, mais ça vaut dans la vie de tous les jours, en fait. Hein. Donc voilà, moi, ma vision d'un tourisme un peu plus optimiste, c'est pas être naïf et dire tout va bien, pas du tout. C'est plus être conscient et aussi être informé et être dans la diffusion de la culture. Donner de la profondeur, en fait. Ça permet de mieux comprendre une situation et peut-être aussi d'aider à y remédier, parce que je pense que des visiteurs qui viennent à Bordeaux, qui comprennent ce qui se passe, qui s'intéressent aux personnes qu'ils rencontrent, qui vont plus loin que juste la façade d'une belle propriété, d'un grand groupe, peuvent devenir des ambassadeurs très intéressants aussi de Bordeaux, peuvent changer leur vision sur Bordeaux.
Potentiellement, ouais. Effectivement.
Ouais. C'est d'avoir un peu d'impact, en fait, à l'avenir.
Donc, c'est d'aller chercher des sources d'optimisme un petit peu, même dans un environnement qui peut parfois être un peu morose, trouver des sources d'optimisme pour faire jaillir un petit peu de nouvelles manières de voir les choses. Je vois très bien. Si on passe maintenant un petit peu plus sur l'entreprise à mission stricto sensu, alors évidemment, on en a déjà parlé de manière un peu indirecte. Vous avez fait le choix de créer La Vie Bonne directement en société à mission l'an dernier. Vous en parliez un petit peu au début en disant oui, il y avait un choix, etc. Justement, pourquoi ce choix?
J'ai envie de dire, moi, j'ai créé une société ex nihilo, donc c'est plus simple. Je vois bien autour de moi, on commence à se connaître un petit peu dans le petit monde des sociétés à mission, et notamment à Bordeaux, il n'y en a pas beaucoup. Je vois bien que quand on pilote un paquebot, une grosse entreprise, la faire bifurquer en mission, c'est long, c'est compliqué. Pour ma part, c'était simple, en fait. Hein, donc, j'ai une société unipersonnelle, donc bien sûr que ça m'engage sur le long terme, mais enfin, pour moi, c'était impossible de créer une société sans mettre, j'allais dire, l'emphase, mais en fait, sans mettre la priorité numéro une sur la responsabilité sociétale. L'entreprise de demain, elle intègre forcément ça, et pas simplement en élément, mais en priorité. Alors, bien sûr, hein, qu'il y a la rentabilité financière, etc., mais enfin, ça, on le sait, je veux dire, on parle que de ça, donc on le sait. Mais par contre, je pense que notre responsabilité en tant que chef d'entreprise, elle est immense, et de plus en plus.
Et comment vous avez, après vous êtes dit, tiens, je vais créer ma société en directement en société à mission. Comment ça s'est fait? Est-ce que vous êtes renseigné sur ce que ça impliquait de devenir société à mission? Est-ce que vous avez fait un benchmark au niveau du tourisme, un petit peu les autres structures? Est-ce que vous avez bénéficié d'un accompagnement? Je crois que c'est un peu le cas. Comment ça s'est fait? Parce que, enfin, alors moi, de manière très transparente, hein, enfin, les auditeurs le savent, parce que je le dis assez fréquemment, je suis pas toujours le plus grand promoteur d'une entreprise directement société à mission. Parce que je trouve qu'en fait, souvent, on a tellement d'autres choses à faire que s'occuper de sa mission, parfois, peut être mis un peu de côté, relégué au deuxième plan, parce qu'il y a le développement économique, le développement commercial, etc. Et on prend pas forcément aussi la mesure de la partie reporting qu'il peut y avoir, la partie audit, c'est un moment qui va arriver, etc., dans la mission. Donc, comment ça s'est fait de votre côté?
Moi, j'ai connu la possibilité d'être société à mission en rencontrant d'autres entreprises autour de moi, en rencontrant des sociétés qui étaient engagées dans ce voilà. Moi, j'ai tout de suite su que ça, c'était vraiment ce que je souhaitais, en fait, hein. Donc je me suis dit non, ça c'est ce que je souhaite, non seulement parce que voilà, je souhaite fortement m'inscrire dans une démarche porteuse d'avenir, en fait, et porteuse d'espoir aussi. C'est important, ça, dans le monde d'entreprise, je pense. Et en plus, parce que je me suis dit que c'était la structuration idéale pour ma stratégie, pour écrire ma stratégie à moyen terme. Je me suis dit que voilà, c'était un bon outil de structuration. Après, effectivement, je me suis fait accompagner de façon ponctuelle pour la rédaction de ma raison d'être et aussi pour obtenir des outils de reporting déjà existants, pas avoir tout à créer moi-même. Ce qui fait que j'ai commencé avec un outil très bien construit, voilà, un tableau qui reprend en fait tous les critères, les KPI. Voilà, l'outil qu'utilisera l'organisme de contrôle, et puis je le remplis au fur et à mesure, ce qui me permet de revenir régulièrement aussi sur ma mission, ma raison d'être, me souvenir pourquoi je le fais, et puis revenir à la stratégie très régulièrement, en fait, finalement, c'est ça. Et c'est ça aussi qui nous manque, chef d'entreprise, des fois, c'est de revenir régulièrement à la stratégie, ça je le sais bien. Donc c'est aussi un élément central qui nous oblige, enfin, moi, qui me permet de m'obliger à revenir au cœur du réacteur, j'ai envie de dire. Après, ce qui est vrai, à mon avis, là vous avez raison, ce qui est pas évident quand on crée sa société directement à mission, c'est que on n'a pas encore le recul, donc il se peut que dans 2 ans, dans 3 ans, il faille faire des petits ajustements quand même. Donc, mais ça, c'est pas grave. Je me laisse cette liberté-là. De toute façon, je me laisse toutes les libertés.
Tant mieux. Justement, revenons un petit peu sur la mission, sur votre raison d'être et les objectifs. Est-ce que vous pouvez nous en parler, enfin, nous donner votre raison d'être déjà pour commencer?
Oui, donc la raison d'être de la Vibonne, c'est de créer des voyages qui favorisent donc les rencontres humaines, la diffusion de la culture, le tout dans un dans le développement du tourisme durable. Donc ça c'est des grands mots, mais voilà, vous imaginez bien que derrière le tourisme durable, il y a une définition qui a été proposée par l'Organisme mondial du tourisme. Donc voilà, que je vous laisserai consulter, mais qui intègre toute la partie de prise en compte de la destination qui reçoit, des populations locales, etc. Parce que là, on parle de tourisme à Bordeaux, mais le tourisme durable, ça peut être aussi quand on va visiter les pays. Et vous savez bien que voilà, on peut aller visiter n'importe quel pays aujourd'hui dans le monde. Donc il y a une dimension d'intérêt aussi pour la destination qui reçoit, qui est très importante dans le tourisme durable. Bon, il y a aussi évidemment la dimension écologique, qui est, je pense, la première chose que l'on voit. Je pense que là-dessus, la Vibonne a un objectif assez simple. En fait, l'idée, c'est d'éviter de transporter nos visiteurs toute la journée d'un château à un autre, d'aller traverser le département pour un dîner. Voilà, l'idée, c'est plutôt de rester, vous l'avez compris, dans les séjours au sein d'une propriété qui, justement, a la profondeur nécessaire pour qui justifie qu'on y reste 2-3 jours. Hein, donc. L'idée, c'est ça, en fait, c'est d'éviter les déplacements à outrance. Et puis aussi, moi, c'est vrai que je cible une clientèle qui se trouve en Europe, en périphérie de la France, mais aussi à Paris, mais aussi une clientèle locale. C'est ça aussi la surprise, c'est que les Bordelais vont jamais dormir dans les châteaux, faire des retraites créatives. Donc, finalement, ça les intéresse aussi, et ça, c'est très chouette. Ça, c'est pour la partie tourisme durable et donc diffusion de la culture. Je pense qu'on en a déjà parlé. Un et puis petit les rencontres peu, humaines aussi. Voilà. Donc après, j'ai aussi ajouté un objectif très, très concret de soutien de la
la biodiversité locale. Donc ça veut dire, voilà, j'essaye par exemple pour les séjours que j'organise au bord de l'océan, je soutiens des associations. Donc très concrètement, hein, c'est de se reverser un pourcentage du chiffre d'affaires à des associations qui soutiennent, qui préservent les océans. Voilà, donc Surfrider Foundation ou Sea Cleaners. Et j'ai aussi, je souhaite développer un engagement auprès d'associations qui soutiennent une viticulture durable. Ça, pour moi, c'est essentiel dans le no-tourisme.
Oui, pas que faire.
Et voilà, c'est vrai que ça fait partie, à mon sens, de la protection de la destination sur laquelle je travaille. Et pour moi, si vous voulez, un visiteur égale un intérêt pour la destination. C'est ça aussi le tourisme tel que je le vois. C'est, on vient, on apporte quelque chose aussi. On ne fait pas que prendre.
C'est une bonne approche, effectivement. Ce n'est pas forcément l'approche classique du touriste. Moi, le premier, c'est vrai que je vais plutôt à un endroit. Je prends, je ne sais pas si je donne beaucoup, à part quelque chose d'économique. Mais à part ça, je ne sais pas si je donne beaucoup, effectivement, au lieu où je vais.
Mais même économique, hein, il faut se poser la question quand on va quelque part. Mais après, moi, je ne suis pas... Enfin, voilà, on est tous pareils. L'idée n'est pas de juger, de culpabiliser. L'idée étant d'essayer de donner des clés, donner, ça peut être tout simplement déjà se renseigner sur la destination où on va. Si on va, voilà, on va à Bordeaux, on va goûter ce vin, on va rester 3 jours dans une propriété, forcément, on va revenir transformé. On va en parler, ça aussi, donner à la destination. C'est, déjà, quand on connaît mieux quelque chose, on n'a plus le même rapport. Donc, on peut... Je pense que c'est une façon, c'est tout simple en fait. Je révolutionne rien là. Hein. On est dans du bon sens et c'est tout simplement ça. Ça commence par ça, petit pas.
Sur la société à mission, ce qui est intéressant chez vous, c'est que vous avez décidé de pas mal communiquer quand même sur le fait que La Vie Bonne était société à mission. Déjà, pourquoi ce choix? Parce que c'est pas toujours le cas dans les entreprises qui se créent qui sont nativement société à mission. D'ailleurs, c'est pas le cas pour toutes les sociétés à mission plus généralement. Et comment vous le faites?
Eh bien, à vrai dire, je ne communique pas du tout. Non, je plaisante. Je communique pas du coup. En revanche, c'est vrai que dans mes les valeurs sont essentielles. Dans la constitution de ma société. Donc forcément, quand on parle des valeurs de La Vie Bonne et de la fondatrice, la société à mission arrive rapidement. Et aussi, j'utilise ce plus, on va dire, pour aussi identifier des partenaires qui sont positionner sur ces valeurs aussi. Pour moi, c'est un moyen de rencontrer des personnes en phase. Et pour vous donner un exemple, à Bordeaux, là, on a engagé en fait avec une autre société à mission qui s'appelle EcoAudit, une petite identification des sociétés à mission basées à Bordeaux, et on essaie de se rencontrer, échanger sur qui nous sommes, etc. Donc à notre toute petite échelle, hein, à Bordeaux, l'idée, voilà, une fois de plus, c'est de créer du lien, de se connaître, essayer d'évidemment de, on n'est pas sur un système de réseau classique où le but c'est de business, on est plus échanger nos valeurs, et puis après pourquoi pas travailler ensemble, bien sûr. Mais je pense, si je communique dessus, c'est pour rentrer en contact avec d'autres partenaires qui sont sur la même longueur d'onde.
Alors, je disais que vous communiquez parce que, en soi, sur le site internet, on trouve facilement que vous êtes société à mission. Il y a même vous avez fait un article, d'ailleurs, un article de blog sur le sujet.
Tout à fait.
C'est même dans votre signature de mail, hein. Oui. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même, en tout cas, vous le portez. C'est pas quelque chose, c'est pas un à côté. En tout cas, c'est dire, choisi d'être société à mission et je suis prêt à communiquer dessus. Et après, c'est intéressant d'avoir cette démarche aussi de se dire, je suis pas société à mission seule, en fait. Il y en a d'autres qui sont dans cette même démarche-là. Peut-être qu'on peut s'inspirer, travailler ensemble, apprendre les uns des autres, créer une communauté et puis l'élargir tant qu'à faire. Ça peut être aussi assez intéressant.
Je pense que c'est vertueux. Souvent, on me dit, qu'est-ce que c'est en fait la société à mission? Peu de gens connaissent en fait encore, et ça me permet effectivement de parler de ça, de dire c'est aussi possible de voir l'entreprise de cet œil-là. Ça me permet de je pense qu'il y a un échange vertueux là-dessus.
Alors on arrive petit à petit vers la fin de notre échange. Donc on va passer à quelques questions un peu plus personnelles pour cette fin d'épisode. Ce qui m'a beaucoup impressionné, alors je l'ai un petit peu dit, mais en découvrant le projet de La Vie Bonne, c'est qu'on a l'impression qu'avant de créer La Vie Bonne, vous avez fait un ikigai et vous avez dit qu'est-ce que j'ai envie de lancer comme projet qui réunit toutes mes passions. La philosophie, l'écriture, la culture, le vin et le tourisme. Et je sais pas si vous auriez pu trouver mieux comme projet. Je me suis dit, mais est-ce que c'est pas quelque chose de si évident que ça de réunir tout ça? Est-ce que vous avez fait un travail justement pour arriver à ce projet-là qui est vraiment très très spécifique quand même?
Alors non, j'ai pas fait ni de bilan de compétences, ce genre de truc. Non, en fait. Par contre, j'ai réfléchi, ouais. si vous voulez, c'est ce que je vous disais en introduction. En fait, tous ces mondes-là coexistent déjà et de façon très vibrante et très forte déjà. Enfin, je vous donne l'exemple du festival Philosophia à Saint-Émilion. Enfin, Philosophie et vin, c'est le mariage le plus heureux du monde, je pense.
Il y a un bouquin qui est sorti il n'y a pas très très longtemps d'ailleurs sur la philosophie du vin qui est très très bien.
Oui, absolument. Voilà, ce sont des sujets qui existent depuis longtemps. Enfin, philosophie et vin, c'est Platon en fait, hein. Donc c'est pas d'hier. Pour moi, ce sont des sujets voilà qui vivent depuis longtemps. Littérature et vin, c'est pareil. J'ai donné un cours l'autre jour justement sur cette thématique-là, littérature et vin, ce qui m'a permis de faire une bonne anthologie et de réviser le sujet. C'est fascinant parce que ce sont deux mondes qui coexistent depuis toujours et qui ont donné lieu à des textes merveilleux. Baudelaire était un peu ténébreux, mais Apollinaire, c'est fantastique. Et puis il y a de nombreux auteurs qui parlent du vin, mais alors il y a mille façons de parler du vin. Il y a le goût, bien sûr, mais il y a aussi tout l'imaginaire. Moi, c'est ça qui m'intéresse, en fait, dans le vin. C'est l'imaginaire qu'il y a autour. C'est une façon de dire autrement la culture du vin. C'est l'imaginaire qu'il y a autour du vin qui est fascinant pour moi. Donc ça, on le retrouve divinement dans la littérature. Voilà. Bon, l'art, c'est pareil. Je pense d'ailleurs que l'art et le vin, c'est l'aboutissement le plus ultime de ce qu'on fait de plus sophistiqué dans notre civilisation, finalement. Donc, de plus abouti. Sophistiqué, pas dans le sens inatteignable du terme, mais de plus abouti. Tout ça coexiste vraiment merveilleusement depuis bien longtemps. J'ai absolument rien inventé. L'idée, c'est aussi de proposer ça, de mettre ça en tourisme, on va dire, de rendre ça un petit peu plus accessible aussi, même si je suis quand même sur un positionnement assez haut de gamme, bien sûr, mais de proposer ça comme un voyage culturel.
En fait, j'avais vraiment l'impression que vous aviez identifié des zones de plaisir, en disant bah, comment je peux réunir toutes ces zones de plaisir dans un projet entrepreneurial. Et, oh, tiens, ça, pourquoi pas? Allez, allons-y. Donc c'est vrai que c'était ça m'a fait tilt quand j'ai découvert un petit peu les différentes facettes du projet. Dernière question avant qu'on passe à l'instant musical. Vous êtes également coordinatrice du mouvement Women in Wine Tourism. Est-ce que vous pourriez expliquer un petit peu le fonctionnement? Comment ça se déroule? Parce que alors, moi, je l'ai découvert, je ne connaissais pas. Un petit mot quand même sur ce réseau.
Bien sûr. Donc, c'est un réseau qui a 10 ans, qui a été fondé par Mary Darden, qui est une anglo-américaine, cano-bordelaise, qui a fondé ce réseau il y a une dizaine d'années. Quand je suis revenue à Bordeaux, c'était en 2016, elles m'ont pris à bord, entre guillemets. Voilà, c'était un petit réseau de femmes qui travaillaient dans le no-tourisme. Moi, j'arrivais à la Cité du Vin, donc j'ai trouvé ça fantastique. Voilà, on se réunissait pour déjeuner, on parlait un petit peu de nos métiers. Il y avait une influence anglo-saxonne que j'aimais bien, des femmes de différentes cultures, ça j'adore. Et puis il y a eu le Covid, donc comme pas mal de choses, les rencontres se sont espacées puis arrêtées, et puis un jour je pars aux États-Unis avec Mary, et puis je lui dis tu sais, moi quand j'habitais à Paris, j'avais un réseau de femmes du vin et j'aimerais bien recréer ça à Bordeaux parce que je trouve que c'est intéressant de se rencontrer, et je lui dis si tu veux, je reprends l'animation de Women in Wine Tourism, parce que c'est quand même un réseau que les filles aimaient bien les filles aimaient bien être. Donc, j'ai repris l'animation de ce réseau en 2021. Et voilà, depuis, c'est vrai que bah, j'ai enrichi le fichier, j'ai rajouté mes copines parisiennes, j'ai essayé aussi de voilà d'élargir. J'essaye vraiment d'être très très ouverte sur sur l'écosystème bordelais. Il y a plein de gens qui arrivent tout le temps pour travailler dans les châteaux. Vous l'avez dit, le no-tourisme se développe, donc il y a des nouveaux métiers qui sont créés. Bon, voilà, les responsables de no-tourisme, ça fait longtemps que ça existe, mais il y a beaucoup de châteaux qui s'y mettent. Donc voilà, il y a des personnes qui arrivent de plein d'horizons différents, et j'essaye de voilà de vraiment d'inviter aussi la voilà les jeunes hein, dans ce réseau-là, parce que bah, évidemment elles ont plein de choses à nous raconter. Et c'est vrai que moi, ce que j'aime dans le monde du travail, c'est ce côté intergénérationnel qu'on a moins dans nos vies en fait personnelles. Mais c'est ça que j'aime, c'est de la rencontre des différentes générations. Et les réseaux comme ça, c'est génial, parce qu'on a voilà des jeunes qui arrivent, qui ont 25 ans, 30 ans, et puis les personnes qui sont proches de la retraite. Et on se retrouve voilà une fois par trimestre à peu près. C'est toujours le vendredi midi, c'est l'heure d'un déjeuner. C'est soit dans un lieu nouveau. À Bordeaux, où ça se passe aussi souvent dans les châteaux qu'on met en place, une nouvelle offre de tourisme, etc. Bref, et c'est surtout l'occasion d'un très bon moment passé ensemble. On rigole bien, c'est très relax. Voilà, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de cotisation, on vient quand on peut. Et voilà, moi j'y tiens à ça, à cet aspect un peu détendu, parce qu'on a assez de contraintes comme ça.
Pour terminer, je finis toujours les épisodes par le coup de cœur musical de l'invité. Donc ça peut être un morceau en résonance avec les propos qu'on a tenus, votre coup de cœur du moment, quelque chose qui vous anime depuis très longtemps. Ce serait quoi pour vous ?
Alors il y a un morceau qui m'émeut particulièrement pour toutes sortes de raisons, et je l'ai choisi parce que je trouve qu'il fait résonance au séjour au voyage philosophique océan dont je vous ai déjà parlé. Donc c'est un morceau de Morshiba qui s'appelle The Sea, et voilà qui me plaît à tous égards.
D'accord, ouais, ça fait longtemps que j'ai pas écouté Morshiba, oui. J'aime beaucoup en plus, donc bon, on va écouter un petit extrait. Still ice cream, worries vanish within my dream. Merci beaucoup pour ce petit moment musical très très délectable. Et justement, pour terminer, parce que bon, on enregistre, il est un peu tôt, hein, donc on ne fait pas ça autour d'un verre de vin. Mais bon, quand même, je me suis dit, finissons par une note de dégustation. Si vous aviez eu envie de déguster un verre pendant cet échange, ça aurait été quoi ?
Je pense que si nous avions dégusté un verre ensemble, nous aurions dégusté un verre de Château Chasseline, parce que c'est un vin qui me parle en fait. C'est un vin qui c'est un nectar délicieux, évidemment, hein, grande qualité, d'ailleurs de renommée internationale. Et puis voilà. Et puis, moi, c'est toujours ça qui fait la différence, hein, c'est les rencontres. Donc, voilà, les propriétaires ont une grande érudition. L'accueil qui m'a été réservé quand j'ai proposé les séjours a été très positif. Et puis, en plus, le lieu est d'une poésie infinie.
Bon, bah, parfait. On aurait pris un millésime à maturité en plus, hein, évidemment, parce que sinon, je pense qu'on n'aurait pas apprécié toute la complexité du vin. En tout cas, un très, très grand merci, Pauline, pour cet échange et pour cette plongée un petit peu dans la vie bonne, dans le no-tourisme et dans ce tourisme plus durable que nous appelons tous de nos voeux. J'espère que ça aura aussi donné des envies à certains, peut-être, hein, sur des ateliers d'écriture ou des retraites philosophiques. Et aussi de se dire, bah, passer société à mission dès le début, ça peut avoir des avantages, hein. Je montre souvent les limites qu'il peut y avoir, ou en tout cas je souligne les limites, mais ça peut aussi avoir des avantages. Et c'est vrai que la démarche là est très très cohérente avec votre projet, bien évidemment. Et puis en fait, vous avez bénéficié d'un accompagnement aussi, ce qui vous permet, je pense, de mieux structurer l'ensemble. Donc en tout cas, un très grand merci.
Merci à vous,
et puis à bientôt.
Oui, au revoir.
Merci de votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu et que vous repartez plein d'entrain, d'envie et de bonnes idées. Mais pas si vite. Et si d'autres pouvaient avoir la même pêche que vous après cet épisode ? Pour ça,
rien de plus simple, c'est vous qui avez les moyens entre vos mains. Soit en notant le podcast, surtout sur Apple Podcasts ou sur Spotify, depuis votre smartphone, soit en partageant cet épisode à votre entourage, ou en faisant un post sur les réseaux sociaux, par exemple sur LinkedIn. C'est le meilleur moyen d'améliorer le référencement du podcast et de le faire connaître à d'autres. Et si vous avez des entreprises à mission à interroger, peut-être même la vôtre, contactez-moi directement sur LinkedIn ou par email. Et si vous souhaitez me faire part de vos questions, comme je le disais en introduction de cet épisode, c'est pareil, n'hésitez pas à me contacter, je serai ravi d'échanger avec vous pour un futur épisode. C'est tout pour aujourd'hui, n'hésitez pas à vous plonger dans les précédents échanges, il y en a quand même un petit paquet maintenant, et à bientôt pour un nouvel épisode.